Merci d'être à l'écoute de RFI. Minuit 30 à Pretoria, une heure de moins à Alger.
Afrique Soir.
L'actualité africaine sur Radio France Internationale, c'est avec vous Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Mathis Slimano, bonsoir à toutes et à tous. L'Afrique du Sud et l'Algérie, une nouvelle fois face à Israël, cette fois devant la Cour internationale de justice. Pretoria accuse l'État hébreu de génocide à Gaza et demande à la CIJ d'ordonner l'arrêt immédiat de l'offensive militaire sur Rafah. Elle est désormais rejointe par Alger. Nous reviendrons également sur le rapt de 5 ressortissants indiens au Niger. Ils avaient été enlevés le 25 avril dans la région de Tillaberi lors d'une attaque djihadiste dans l'ouest près du Mali. Aujourd'hui, les autorités indiennes réagissent. Et puis la famille du jeune Malien tué vendredi dans une mosquée du sud de la France attend que justice soit rendue. Ce mardi, l'oncle de la victime était invité à l'Assemblée nationale où la gauche qui dénonce le manque de soutien à la famille a obtenu une minute de silence en sa mémoire. Nous reviendrons également sur ce retour inquiétant des islamistes d'Al-Shabaab en Somalie. Depuis le mois de janvier, ils multiplient les attaques et regagnent du terrain dans la partie du pays située au nord de Mogadiscio, la capitale. Alors que révèle cette nouvelle offensive? Élément de réponse à suivre. C'est donc devant la Cour internationale de justice que l'Afrique du Sud et l'Algérie vont faire face à Israël. Pretoria, qui accuse l'État hébreu de génocide à Gaza, demande à la CIJ d'ordonner l'arrêt immédiat de l'offensive militaire sur Rafah. Elle est rejointe par l'Algérie, qui a annoncé son soutien à la démarche. 40 États au total et 3 organisations multilatérales vont être entendus par les juges de la plus haute instance de l'ONU. L'audience s'est ouverte ce mardi à La Haye sur fond d'intensification des opérations israéliennes dans le sud de la bande de Gaza. Compte rendu d'audience, Stéphanie Maupart.
Comme la majorité des États qui plaident depuis lundi devant la Cour internationale, l'Algérie et l'Afrique du Sud rappellent qu'Israël a l'obligation de protéger la population qu'elle occupe, c'est-à-dire les Palestiniens. C'est ce que disent les conventions de Genève. Israël ne peut faire de la famine une arme de guerre, c'est ce qu'a dit Maya Salif Adel, professeur de droit international de l'Université d'Alger.
L'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique ou une arme de guerre. Sauver des vies ne devrait jamais être un sujet de controverse. Les principes et règles du droit international développés au fil des siècles pour protéger les civils ne doivent pas être balayés.
Dans sa plaidoirie, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Jemion Hendricks, a appelé le monde à un sursaut.
L'Afrique du Sud partage le point de vue du secrétaire général de l'ONU selon lequel le monde a trahi le peuple palestinien. Leur seule certitude est que demain sera pire. Nous devons donc sauver ce qui reste de notre humanité en mettant fin à l'occupation coloniale illégale d'Israël et à la famine intentionnelle dont il fait preuve envers la population palestinienne, systématiquement brutalisée et privée de la plus élémentaire considération d'humanité.
Les audiences devant la Cour se poursuivront jusqu'à vendredi. Stéphanie Mopala et RFI.
L'enlèvement de 5 ressortissants indiens au Niger. Le rapt a eu lieu le 25 avril dernier dans la région de Tillaberi. On ne l'a appris que lundi. 12 soldats nigériens ont été tués au cours de cet enlèvement. Ces techniciens et ingénieurs indiens travaillaient pour la construction du barrage de Kandaji. Retour sur les faits avec Pierre Fersion.
Ces hommes ont été enlevés non loin de la bourgade de Sakoira, dans la région de Tillaberi. Tous travaillaient pour le compte d'une entreprise chargée de la construction de la ligne électrique du barrage de Kandaji. Selon la presse indienne, ces travailleurs sont originaires du district de Giridi, dans l'état indien du Jharkhand. Ces 5 ressortissants ont été enlevés vendredi, après une attaque djihadiste, attaque qui a coûté la vie à 12 soldats nigériens qui assuraient la sécurité de ces travailleurs. Les ravisseurs ont ensuite pris la fuite avec leurs otages en direction de la frontière malienne toute proche. Cette zone, au nord de la région de Tillaberi, située à la jonction des 3 frontières, est actuellement sous le contrôle de l'EIGS. Si pour l'heure Niamey n'a pas communiqué sur cet enlèvement, les autorités indiennes s'activent, elles, pour obtenir une libération rapide des otages. Selon la presse indienne, le gouvernement de l'État du Jharkhand a déclaré lundi avoir intensifié ses efforts pour faire libérer ses ressortissants, une action menée en collaboration avec le ministère indien des Affaires étrangères.
Récit signé Pierre Firsion. Au Mali, fin ce mardi soir de la phase nationale de consultation des forces vives du pays sur la relecture de la charte des partis politiques. Les travaux ont duré 2 jours. Principale recommandation, la dissolution de tous les partis politiques. Et le général Assimi Goïta, élevé au rang de président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. La classe politique malienne dénonce depuis plusieurs semaines une mise en scène destinée à mettre un terme au multipartisme. En France, la famille du jeune malien tué vendredi dans une mosquée du Sud attend que justice soit rendue. Ce mardi, l'oncle de la victime a tenu une conférence de presse à l'Assemblée nationale où la gauche, qui dénonce le manque de soutien à la famille, a obtenu une minute de silence en sa mémoire. Djibril Cissé est au micro de Charlotte Eurien-Tomaca.
On est à la fois triste et en colère aussi. Triste de ce qui nous est arrivé parce que là, il était venu ici pas pour se faire tuer, quoi. Et c'était quelqu'un de bien associable qui était un modèle pour nous tous. Et c'était dans ces gentillesses-là toujours qui s'est fait assassiner lâchement par les criminels. Triste aussi à la fois des traitements médiatiques au début qui a été fait parce qu'ils nous ont fait croire au début que c'était des frères musulmans qui se sont assassinés. Et puis comme disaient certaines aussi les réactions tardives de certaines responsables politiques. Mais là aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la justice soit faite pour notre neveu.
Propos recueillis par Charlotte Eurien-Tomaca. Les médias sénégalais vont debout contre la décision du ministère de la Communication de suspendre avec effet immédiat tous les médias qui ont échoué à se mettre en conformité avec un certain nombre d'obligations administratives. Plus de 350 médias sur les 600 et quelques que compte le pays sont concernés par la mesure. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a donc prévu de se mobiliser et demande à tous les médias concernés par la suspension de déposer un recours devant la Cour suprême. Mamadou Ibrakane, le président du patronat de la presse sénégalaise, dénonce une mesure arbitraire. Il est au micro de Léa Lisa Esterhoff.
Nous comprenons que l'État, quel État que cela puisse être, doit encadrer le secteur de la presse parce que la presse est un secteur stratégique et névralgique. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent domestiquer la presse. C'est-à-dire qu'ils veulent eux-mêmes dire qui a le droit d'être un média au Sénégal ou non. Cela, c'est vraiment inconcevable, c'est arbitraire et c'est ce contre quoi nous luttons actuellement. À chaque alternance politique, nous avons eu le même problème. Ça a été le cas sous le président Abdoulaye Wade, ça a été le cas sous le président Macky Sall et c'est le cas aujourd'hui sous le président Diomaye. Nous nous battons pour que l'embryon d'état de droit que nous avons au Sénégal, qu'on puisse le renforcer. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une constitution qui dit que la création d'un média n'est soumise à aucune autorisation administrative. Nous nous battons pour que la liberté de presse puisse continuer d'exister, quels que soient les gouvernants en place.
Et de son côté, le ministère de la Communication appelle à la patience. Un certain nombre de dossiers seraient encore en traitement. Le ministre de la Communication, Ali Ounsal, doit rencontrer ce vendredi les acteurs de la presse pour leur soumettre un rapport sur la restructuration du secteur des médias. En Côte d'Ivoire, Charles Blégoudé, fondateur et leader du parti COGEP, appelle à un conclave politique national pour apaiser les tensions. Pour rappel, Charles Blégoudé, acquitté par la Cour pénale internationale, a été condamné en décembre 2019 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. Sa peine n'a pas été exécutée, mais il reste privé depuis 2020 de ses droits civiques. Vendredi, il a d'ailleurs été radié de la liste électorale de la présidentielle d'octobre prochain. Dans une vidéo postée lundi soir sur les réseaux sociaux, Charles Blégoudé appelle donc à un dialogue de toute la classe politique pour, dit-il, faire baisser la tension.
J'appelle à l'organisation d'un conclave politique national. Devant réunir autour de la table de pouvoir toute l'opposition et la société civile. Au cours de ce conclave dont je parle, ce sera l'occasion de poser toutes les questions politiques qui cristallisent l'atmosphère. On me parlera des questions judiciaires, mais il est temps que l'autorité qui a le pouvoir de prendre des décisions puisse faire intervenir politiquement la personnalité dans le débat ivoirien afin de calmer la situation. Nos formations politiques ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi la classe politique ivoirienne doit faire preuve de responsabilité en se retrouvant autour d'une table au nom des Ivoiriens, au nom de cette Côte d'Ivoire qui a besoin de rassurer ses partenaires extérieurs, mais qui surtout a besoin de rassurer ses populations au nom desquelles nous travaillons.
Un propos recueilli par Binta Diagne et puis joint par RFI, le ministre porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly écarte pour l'instant cette option, estimant que la cinquième phase du dialogue politique est close depuis mars 2022. Les élections seront transparentes, elles seront démocratiques, elles seront apaisées, elles seront légales, parce que conformes à la Constitution, assure le ministre.
Afrique Soir sur RFI.
C'est une résurgence qui inquiète, celle des islamistes d'Al-Shabaab en Somalie. Depuis le mois de janvier, ils multiplient les attaques et regagnent du terrain dans le Hirshabel et le Galmudug, la partie du pays située au nord de Mogadiscio, la capitale. Vendredi dernier encore, ils ont brièvement pris d'assaut une base militaire avant d'en être repoussés. Alors que révèle cette nouvelle offensive ? Élément de réponse avec Florence Boris.
L'objectif des Chebab semble clair, regagner les territoires perdus en 2022 lors de la vaste offensive lancée par le président Hassan Sheikh Mahamoud après son élection. À l'époque, 70 localités avaient échappé aux Chebab. Ils en ont repris une trentaine depuis le mois de janvier. Et parmi elles, certaines sont stratégiques, comme par exemple la ville d'Adan Yabal, reprise mi-avril, un important carrefour routier et logistique qui abrite une base de l'armée somalienne. Plutôt dans une position défensive l'an dernier, les Chebab cherchent à tirer profit du contexte. D'abord, une transition délicate au sein de la mission de l'Union africaine, avec en début d'année la naissance d'Aou Somme, déjà en manque d'argent et d'effectifs, une fatigue des bailleurs occidentaux, de plus en plus hésitants à financer des troupes en Somalie, mais aussi les faiblesses de l'armée somalienne. Elle reste très dépendante sur le terrain de l'appui de milices claniques que l'on appelle les Maawisley. En 2022, ces milices avaient largement contribué aux victoires enregistrées contre les Chebab, mais aujourd'hui, une partie d'entre elles sont réticentes à reprendre les armes en soutien au président Hassan Sheikh Mahamoud, fragilisé depuis une réforme constitutionnelle contestée.
Et dans ce contexte, les responsables de l'AMISEM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, qui a pris le relais d'ATMIS au 1er janvier, estiment que la mission a besoin d'au moins 8000 soldats de plus que prévu en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Somalie. C'est ce qui ressort d'un rapport communiqué à l'issue d'une rencontre entre les différents pays contributeurs à cette mission qui s'est tenue les 22 et 23 avril à Kampala. Et pour aller plus loin, rappelons qu'en 2024, le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Cette réforme souhaitée par la communauté internationale et portée par Hassan Sheikh Mahamoud a contribué à renforcer les divisions au sein de la classe politique somalienne. Alors comment les Chebab peuvent-ils en tirer profit ? Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, répond à Florence Maurice.
Ces réformes ont divisé encore plus le champ politique somalien et ça a fini par affecter y compris des leaders qui sont originaires de la zone Hirshabelle, hein, c'est-à-dire Iran, Midashabelle et Galmudug. Vous avez des gens comme Cheikh Sherif qui sont originaires de Midashabelle, qui se retrouvent dans une opposition assez virulente avec contre Hassan Sheikh. Donc il ne veut plus travailler avec Hassan Sheikh. Donc les Maoïstes de ces sous-clans-là ne travaillent plus avec Hassan Sheikh et donc ne font rien contre Chabab.
Donc il est assez isolé en fait et c'est une des manifestations.
Isolé, il a des soutiens mais effectivement c'est pas un grand moment politique pour lui, c'est-à-dire que il a lancé l'offensive contre Chabab dans cette idée qu'il allait créer une unanimité, mais le problème est que non. Mais par exemple, ils ont essayé de prendre un autre endroit qui s'appelle Ouargadi, qui est important parce que là aussi c'est carrefour routier important et puis c'est tout près de l'endroit où les Turcs veulent installer une base pour lancer des satellites. Bon, ils y sont allés et ils se sont fait mettre dehors par les Maoïstes au bout de quelques heures. Alors peut-être qu'ils réussiront à le prendre, mais peut-être qu'ils réussiront pas, parce que c'est pas la première fois qu'ils se font bouter dehors. Hein, donc il faut être.
Donc c'est exagéré de dire que Mogadiscio, que le pouvoir de Mogadiscio est menacé.
Oui, c'est exagéré. Si vous voulez, il y a effectivement un grignotage réel, mais si vous regardez les attentats dans Mogadiscio, c'est intéressant. Par exemple, pour le mois d'avril, il y a eu des attaques au mortier. Il n'y a pas d'attentat. Il y a eu un attentat contre Hassan Sheikh. Et la bombe a été déposée à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire qu'ils ont, contrairement à ce qu'ils faisaient avant, où c'était des véhicules, soit qui stationnaient, soit des véhicules béliers, bon, cette fois-ci, ils sont obligés de cacher les bombes dans les maisons. Et en fait, bon, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait le choix, qui est peut-être contestable, de surmilitariser Mogadiscio, c'est-à-dire que la logistique de Shabab est très difficile. Donc Mogadiscio va pas tomber, parce que d'abord, c'est assez bien protégé par l'armée, et puis surtout parce que si les choses redevenaient réellement très sérieuses, la population... prendrait part, et je crois pas que la population serait derrière Shabab.
Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po avec Florence Maurice. Au Kenya, près d'un an, après une vague de protestations durement réprimées, le gouvernement s'engage à un nouvel assainissement budgétaire. Il s'est engagé ce mardi à plafonner le déficit budgétaire à 4,5% du PIB pour la loi de finances 2025-2026. Le président William Ruto est pris en étau entre des bailleurs internationaux qui le pressent de trouver des recettes pour rembourser une dette nationale culminant à 78 milliards de dollars et la population, dont un tiers, vit sous le seuil de pauvreté. Et notre page de sport à présent avec pour commencer du football et le Paris Saint-Germain qui prend un bel avantage après sa victoire sur la pelouse d'Arsenal 1-0 lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. En maîtrise durant la grande partie de la rencontre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score avant de gérer les assauts adverses grâce notamment à un grand Gianluigi Donnarumma dans les cages. Récit de la soirée avec Sofia Damasian.
De l'ombre à la lumière. Pris pour cible après une prestation plus que compliquée au soir de la défaite 2-0 face à Arsenal en octobre dernier lors de la phase de Ligue, Gigio Donnarumma a rappelé à ses détracteurs qu'il faisait bien partie des meilleurs portiers de la planète. Rassurant dans les airs lorsque le danger approchait de ses buts, à l'aise, balle au pied pour faciliter la relance parisienne, le gardien italien a maintenu son équipe à flot dès que les vagues adverses se multipliaient après l'ouverture du score signé Ousmane Dembélé dès la 4e minute de jeu. Une parade bien sentie d'abord devant le Brésilien Gabriel Martinelli juste avant la pause, puis une autre pleine de classe pour dévier in extremis la frappe rasante de l'ailier belge Leandro Trossard. Seule petite erreur, sa sortie manquée sur coup franc lors de l'égalisation de la tête par l'Espagnol Mikel Merino, un but finalement annulé pour hors-jeu. Les Parisiens ont même eu deux belles opportunités d'aggraver la marque, mais Bradley Barcola puis Gonçalo Ramos, tous deux entrés en jeu, ont manqué de précision. Avantage PSG donc avant le match retour au Parc des Princes grâce à un Donnarumma des grands soirs, salué par tous ses coéquipiers au coup de sifflet final.
Récit de Sofiane Amazian et puis du cyclisme également avec la deuxième étape du Tour du Bénin. 156 km plein sud entre Parakou et Savé, étape remportée au sprint par le Marocain Al-Houssen Sabahi devant le Sud-Africain Reinhard Jans van Rensburg qui reste donc maillot jaune. Deux coureurs parmi les 80 encore en lice sensibilisés par les organisateurs à l'écologie. Et oui, la compétition se veut propre. Olivier Pron est allé inspecter les rues.
Moi, je m'appelle Ketounou David. Nous sommes la commission écologie. On ramasse les bidons vides qu'on a jetés, les sachets, les débris, tous les, même les bananes, les trucs là comme ça. Tout ce qu'on voit comme déchets, on débarrasse ça du terrain pour que tout l'endroit là soit propre.
Comme David, ils sont trois chaque jour à ramasser les déchets de la caravane. Ils sont la commission écologie du Tour du Bénin et leur compatriote coureur Glorad Saïzenou adhère et n'en est pas peu fier.
Les plastiques et autres, on n'aimerait pas voir ça sur le tour. La propriété est très importante parce qu'on respecte notre pays et c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait la valeur du tour aussi. Il est interdit de jeter les bidons par terre et autres. Soit tu remets ça au directeur sportif, soit lors de la zone de ravitaillement, on peut jeter ça.
Même son de cloche chez le voisin togolais Nyuleleng Chalem, qui fait les efforts demandés et souhaite que l'initiative fasse des émules.
Moi, je trouve que c'est très bon parce que la propriété aussi, il faut la propriété. Le Tour du Bénin, c'est des choses qu'il faut copier et faire dans les autres pays aussi.
C'est très important.
Oui, c'est très, très, très important.
Et chaque jour, ce sont ainsi de 30 à 40 kilos de déchets qui sont remis aux localités accueillant les étapes. On n'a rien sans rien. Olivier Pron-Boycon, RFI.
Et au programme de ce mercredi qui marque la mi-course, un contre-la-montre de 25 km par équipe entre Kove Banam et Zayanado. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 17h49 à Washington. Les 100 jours que Donald Trump est à la Maison Blanche, un second mandat placé sous le signe des coupes dans l'aide extérieure des États-Unis. Il y a eu l'USAID et la semaine dernière, Washington a annoncé la fin du MCC, le Millennium Challenge Corporation, une institution qui finance les infrastructures. 2/3 de cette aide profitait aux pays africains. Électricité, réseaux routiers, irrigation, de nombreux projets ont pu se faire grâce à MCC. Alexis Bédu.
Les ouvriers s'activent encore sur le grand échangeur de Koumassi à Abidjan, une infrastructure financée par le MCC dans le cadre du programme pour la Côte d'Ivoire, 537 millions de dollars au total pour notamment la réhabilitation du boulevard du port, des années qu'elle était en projet et ce sont les financements américains qui ont permis cela, explique Marie-Viviana Dogo-Sankoulibaly, directrice du MCA Côte d'Ivoire, l'entité responsable de la mise en œuvre du programme.
C'est une voie qui est clé dans l'économie ivoirienne parce que tous les produits passent donc par cette voie-là pour être exportés ou même importés aussi. Beaucoup d'industries y sont installées dans la cimenterie, dans le café, dans le cacao et la réhabilitation d'un tel boulevard donc a un impact important dans les performances de toutes ces industries-là.
Au Malawi, c'est un financement de 350 millions de dollars qui s'envole. Il devait servir à la construction de routes à travers le pays. Jacob Ara, le ministre des Transports, l'a confirmé. Projet reporté après, dit-il, le brusque changement de politique américain. La nouvelle doctrine de rationalisation des dépenses publiques à l'international a encore frappé. Ibrahim Amadou Louché, économiste nigérien.
Le risque, c'est que ça accentue des désordres qui sont déjà très présents dans ces zones, qui par ricochet finissent par atteindre les pays développés sous divers canaux, notamment par la migration ou par tout un tas de vecteurs. Il serait souhaitable que les autorités américaines voient reconsidérer leur position pour essayer de reprendre ces aides.
Les États-Unis ont également mis fin à l'USAID, 16 milliards de dollars d'aide par an pour l'Afrique subsaharienne. Dans une moindre mesure, la France et le Royaume-Uni ont aussi raboté leurs aides au développement. Cela commence à faire beaucoup de financements qui manqueront aux États africains.
Il y a du ressentiment. Les organismes internationaux, en fait, ils emploient aussi de la main-d'œuvre local. Il y a des emplois directs et indirects. Moi, personnellement, pour ma part, j'ai des connaissances qui s'apprêtent maintenant à rentrer au pays et c'est beaucoup d'interrogations, effectivement, par rapport à leur avenir. En termes de perspectives, deviennent de plus en plus sombres.
L'alternative pour ces pays serait de se tourner davantage vers la Chine pour trouver de nouveaux financements. Mais Pékin est sur un modèle différent, misant sur des investissements avec contrepartie, ce qui participe à l'endettement des pays assez loin des dons sans remboursement du MCC.
Un dossier signé Alexis Bédu. Et puis je vous rappelle que les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche, on y revient très largement tout au long de cette journée de mercredi sur nos antennes.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et comme tous les mardis, on accueille donc l'ambianceur d'Afrique Soir. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir l'oncle Zéphir.
C'est au pas de course hein, que l'on va découvrir votre sélection du jour qui commence avec la révélation congolaise Tengaishi.
Et même révélation congo-belge, comme ils disent, car Tengaishi est de la diaspora du Congo à Bruxelles. Il revient en force avec son nouveau single Boloko, sorti le 25 avril dernier chez Universal Music Polydor. On est en présence d'un titre hybride à faux urbain pop teinté de jazz électro qui raconte l'histoire d'un homme prisonnier de ses sentiments romantiques pour sa voisine. Ce morceau succède à Medusa, chanson en duo avec Fally Ipupa et vient confirmer l'ascension de Tengaishi comme l'un des artistes afro-urbains les plus prometteurs à suivre.
Le rouge va mieux, j'avoue tes formes, vous dites mes pensées, je fais des efforts, j'agis comme Adam, entre nous c'est fort, tu vas comme un gant. Est à nous, le reste on s'en fout. Qu'on aille loin, oui j'y ai pensé. Les 400 coups qu'on a manigancé. J'en suis le commandant, j'en suis le commandant. Je sais qu'elle peut d'être pour moi. Mamie à ma mamie, elle peut d'être pour moi. Mamie à ma mamie, elle peut d'être pour moi. Boloko, baby, a tué un aboloko. Talent, elle est menée à boloko. Ah, boloko. Pour ça, y'a cousin un aboloko.
Boloko,
la voix de Tengaichi pour servir ce titre Boloko. Direction à présent l'île de la Réunion pour un duo inédit entre le rappeur LRB et le chanteur Bart.
LRB, le rappeur insulaire qui dévoile le single Bobo, premier extrait de son EP DIT prévu pour ce 2 mai. On y retrouve sonorités afro-urbaines et textes introspectifs explorant les blessures émotionnelles des humains. LRB et Bart ont tourné le clip dans les décors urbains et paradisiaques de la Réunion et Bobo est une collaboration qui souligne la capacité de LRB et Bart à fusionner leurs différents styles musicaux, offrant une dimension riche et nuancée à leur discographie respective.
Les diamants, les verrailles, des iscatars, utilisent toute catapulte, il est bon. Dans la colle, tu m'en sais les plus capables, si tu fais pas le cap avec lui, il est con. Mais ta bobo sur son corps sonne, elle voit que ça sonne, mais elle veut pas répondre. Ma vue, elle y passe dans la zone, la tête vers le sol, en train de faire de la raison. Tu vois, on fait pas rien avec ton corps, mais plus sourd que la route, plus au pied, tout va aller. Les loups se réveillent quand le village s'endort. On connaît pas la vraie villa où ça va le couler. T'es dans le mal à voulu, viens à rouler nous dé ou faut faire passe la douleur. Mi accepte comme on les viens à rouler nous dé ou faut faire passe la douleur. T'es dans le mal à voulu, viens à rouler nous dé ou faut faire passe la douleur.
Voilà, après Bobo de LRB et Bart, eh bien, à chacun sa vie, chacun ses problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le rappeur burkinabé Smarty dans sa nouvelle composition.
Oui, Smarty qui poursuit son chemin d'auteur engagé et de poète du quotidien avec Chacun sa vie, un nouveau morceau sensible et profond qui traite des hauts et des bas de l'existence en rappelant que chacun vit sa propre histoire avec ses combats, ses joies et ses blessures sur une mélodie chargée d'émotions. Des mots simples mais puissants qui résonnent comme un appel à la compassion et à la tolérance, un témoignage personnel qui devient une œuvre collective tant elle parle à chacun.
Le temps s'en allait, des durs moments et des joies sans pareil. J'ai vu des grands qui ont chuté du sommet. Un petit vent et tu perds le sommeil. Mon art a fait de moi un prisonnier. J'ai votre amour mais pas celui de mon frère. Je prie mon Dieu qu'il vienne me délivrer. Je donnerai ma vie pour voir sourire ma mère. Je vis des chants qui gardent ma dignité.
Chacun sa vie du rappeur burkinabé Smarty. On va conclure, hein, Hervé, la sélection certifiée Afro Club du jour, Nigeria, avec cette fois Davido et Victoria Monet.
Oui, Davido et Victoria Monet seront les figures incontournables des grandes vacances qui approchent avec leur collaboration Au Famille, un titre tropical et entraînant parfait pour animer les ambiances festives, extrait de l'album Five de Davido, sorti le 18 avril. Au Famille séduit par son rythme dansant, propice à une écoute en boucle. Et le clip est une invitation au lâcher prise sur la piste de danse.
I want you to come take this all for me. Come and show me what it is that you got to offer me. On the low we can go all night. Won't you tell me it's all for me? And I'll give you all of me. So baby come take this all for me. Yeah, yeah, yeah. I've been thinking I want you to come take this all for me. Come and show me what it is that you got to offer me.
Flows like the waves, all the stress far away. I know they feel no alone.
Voilà, c'est avec Davido et Victoria Monet que nous refermons les portes de l'Afro Club de ce mardi 29 avril avec à la présentation Hervé Mandina alias DJ Facemaker, une sélection disponible à la demande sur l'application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet RFI.fr, vous ne pouvez pas le rater, on a un joli onglet musique qui a fait son apparition. Je vous retrouve jeudi, Zéphira.
À jeudi, Hervé, merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'Afrique Soir réalisée par Jonathan Brady, rédacteur en chef Sabine Mélé, assistée de Simon Builbaudin. Dans une minute, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
This one no be pala, no go break my heart, oh. Make I no go holla, yeah. Oh baby, ole, ole, oh. Cause I bump pity, you na zoo. Oh baby, ole, ole, oh. So make you no go leave me, my love.
Too many things I offer you. Sweet loving I give to you. So baby, come closer.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
100 jours de Trump à la Maison-Blanche, quelles conséquences pour la santé?
Jeudi,
la sexologue de l'émission Noël Caillard-Cy répond à vos questions en direct.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.